Et les midis, c'est donc reparti à 13h. Le réalisateur Dominique Moll sera mon invité. Mais tout de suite, c'est le retour de Marie Sorbier avec le Point Culture.
Bonjour à tous. Depuis 1985, RSF, Reporters sans frontières, défend sans relâche le droit d'informer et d'être informé partout dans le monde. Son combat, protéger les journalistes, dénoncer la censure, soutenir le pluralisme et promouvoir une information libre et indépendante. Pour fêter ses 40 ans, l'association organise un festival demain, samedi 15 novembre, à la Gaîté Lyrique, avec pour thème le journalisme de demain. Et il y a de quoi réfléchir. Le directeur de RSF, Thibaut Brutin, a déclaré à l'AFP « On voit en 40 ans à quel point les prédateurs de la liberté de la presse font preuve d'une inventivité extraordinaire. » Les 40 ans de Reporters sans frontières, c'est le dossier du Point Culture du jour. Anne Bocandé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Alors avant de parler de l'événement prévu pour célébrer vos 40 ans, un point peut-être sur Reporters sans frontières. En regardant en arrière, quelles sont les avancées? Qu'est-ce que Reporters sans frontières a réellement permis d'améliorer sur le terrain?
Alors, Reporters sans frontières est une ONG aujourd'hui internationale. Elle a commencé donc il y a 40 ans par une association montée par quatre journalistes qui se questionnaient déjà sur la question de l'avenir du journalisme et qui étaient engagés dans agir pour la protection des journalistes. Et puis aujourd'hui, peu à peu, donc l'organisation elle a évolué, elle s'est déployée face aussi aux menaces multiformes qu'on a aujourd'hui contre les journalistes, contre le droit à l'information. Et donc aujourd'hui, Reporters sans frontières, c'est une ONG basée un peu partout dans le monde, puisque nous avons un siège à Paris et puis 15 sections et bureaux à l'international, avec plus de 130 journalistes correspondants à travers le monde, tout un réseau de partenaires aussi avec qui on agit au quotidien sur la question donc de la liberté de la presse et du droit à l'information. Alors les défis aujourd'hui restent évidemment nombreux. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, plus de 500 journalistes sont enfermés dans les geôles donc de différents pays à travers le monde en raison de leur travail de journaliste. Plus d'une cinquantaine de journalistes ont été tués depuis début janvier 2025 en raison de leur travail. On pense à quelques étapes phares. Il y en a eu évidemment de nombreuses sur 40 ans de vie. Mais évidemment, il y a la reconnaissance aussi du travail de RSF. En tant que statut consultatif à l'ONU, ça fait partie des choses qui l'ont aussi installé dans le paysage international, mais on pense aussi à la création, par exemple, de la norme GTI, qui est un repère aujourd'hui, une boussole, une proposition, parce que RSF est évidemment tournée vers les solutions. On pense au lancement du classement mondial de la liberté de la presse, donc c'était en 2002. Aussi le lancement de tout le travail de l'assistance au début des années 90. Évidemment, tout le travail autour de l'intelligence artificielle, donc avec la charte de Paris pour l'intelligence artificielle, c'était au début des années 2020. Et puis toute cette histoire, elle est aussi évidemment rythmée par des mobilisations fortes sur des journalistes emblématiques. Donc on pense à Arhan Dundar en Turquie, on pense aussi à Narges Mohammadi en Iran, on pense aussi à tout ce qui a été fait autour de Norbert Zongo au Burkina il y a quelques années. Donc il y a aussi tout ce maillage d'histoires de journalistes qui traversent aussi l'organisation.
Et puisque vous parlez d'intelligence artificielle, quelle est la position de RSF sur la traçabilité des contenus et justement l'utilisation de l'IA ?
Alors, RSF a initié depuis au début des années 2020 la charte de Paris sur l'intelligence artificielle et le journalisme afin justement d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans les médias, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette technologie, elle est là. Et l'enjeu, ce n'est pas tant qu'elle existe, mais véritablement comment aujourd'hui son usage peut être régulé.
Alors, on entend souvent dans le débat public des interrogations sur ce que doit ou pas publier la presse. Quelle est, selon vous, la ligne à tenir en 2025 entre publier une image pour informer et instrumentaliser la douleur?
Alors, Reporters sans frontières est donc une ONG de défense de la liberté de la presse et du droit à l'information. Donc nous, on n'est pas là pour dire aux médias ce qu'ils doivent ou non publier. Là où, en effet, il y a une attention dans nos propres, évidemment, dans nos propres publications et dans nos propres contenus, c'est bien que, en effet, l'image comme les mots ont aussi un pouvoir performatif et de respecter évidemment l'éthique, la dignité et donc toutes ces règles qui encadrent aussi le travail du journaliste.
Alors, pour les 40 ans de RSF, vous proposez le 15 novembre, donc samedi, une journée ouverte à tous à la Gaîté Lyrique. Qu'est-ce qu'on va y voir ?
Alors cette journée est en effet une journée qui célèbre 40 ans de RSF, tournée vers l'avenir, puisque la thématique qui rythme ces 40 ans, c'est informer le monde de demain, donc plusieurs temps forts. Donc ce festival est rythmé évidemment par des débats, des rencontres sur justement l'avenir aussi du journalisme, avec des personnalités comme Pierre Aski, qui est aussi président de Reporters sans frontières, qui discutera avec Gaspard Gé et Elena Berkaoui du média Bondy Blog, qui lui fête ses 20 ans cette année. Il y aura aussi énormément de rencontres autour, évidemment, aussi de la question du journalisme à l'ère MeToo, qui est une thématique que nous avons aussi travaillée cette dernière année. Et donc là, plusieurs journalistes seront autour de la table, dont Rose Lamy, July Foyce, Estelle Janjo, Linaïque Bredoux. Donc de ce type de rencontres, des rencontres aussi autour du journalisme en exil, puisque RSF, avec notamment Singa, est partenaire d'un programme qui s'appelle Voix en exil, en soutien aux journalistes en exil. Donc il y aura aussi un temps fort à ce sujet-là, évidemment sur dire la crise écologique, puisque c'est un grand enjeu aussi du journalisme et du droit à l'information aujourd'hui. Et à l'heure où on se parle, une partie de l'équipe de RSF est aussi à la COP30, où on a pu contribuer à l'émission d'une déclaration pour l'intégrité de l'information et la protection du journalisme environnemental à l'occasion de ce grand rendez-vous avec différents États. Donc c'est un sujet sur lequel on est particulièrement impliqué aussi. Il sera du coup un temps fort aussi de cette journée du 15 novembre, donc de samedi. Des projections, Inside Gaza, donc sur le quotidien de confrères à Gaza, qui donc en ont fait un film. Une partie de l'équipe sera à Paris pour parler de ce film et rendre hommage aussi aux confrères et aux consoeurs de Gaza. Il y aura l'avant-première de notre documentaire produit par RSF sur les radios communautaires au Sahel, donc l'urgence de protéger l'information de proximité au Sahel et partout dans le monde. Ça s'illustre aussi par ce documentaire qui sera diffusé en avant-première. Ce sera aussi l'occasion de découvrir les lauréats du prix RSF pour la liberté de la presse dans différentes catégories: impact, courage, indépendance. Et avec l'actrice et comédienne Aïssa Maïga, on décernera aussi le prix RSF Mohamed Maïga du journalisme d'investigation africain.
On le comprend bien quand on vous écoute, il y a beaucoup de choses, je suis obligée de vous couper parce qu'on arrive à la fin du temps, mais on mettra le programme complet de la journée sur la page internet du Point Culture. Merci beaucoup Anne Bocandé.
Merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la SACD a assigné TikTok en justice.
Oui, la SACD reproche à TikTok d'avoir laissé circuler depuis plusieurs années quantité d'extraits d'œuvres dont elle gère les droits sans aucune autorisation ni contrepartie financière. Elle cite par exemple les films OSS 117, Brise de Nice, Astérix Obélix ou encore Kaamelott, dont des passages sont régulièrement partagés par les internautes. Elle demande une réparation du préjudice subi par les auteurs de ces œuvres, tout en regrettant le manque de transparence de l'application chinoise concernant son chiffre d'affaires. L'audience est prévue devant le tribunal de Paris le 18 mars prochain.
Littérature. À présent, le prix Jean Giono a été remis hier.
Et c'est l'écrivain Antoine Vauters qui est le lauréat de cette 35e édition du prix Giono pour son ouvrage Haute Folie, paru aux éditions Gallimard. Dans ce 10e roman, l'auteur belge, que vous aviez d'ailleurs reçu ici, oui, même, Marie, raconte la vie de Joseph, un homme marqué par les drames familiaux qui choisit une vie d'ermite doté de 10 000 euros. Ce prix récompense chaque année un livre de fiction laissant une large place à l'imagination.
Ce soir à Caen, un spectacle musical rend hommage aux musiciens persécutés par le régime nazi.
Intitulé « Musique interdite », cette création du collectif Acte 6 donne à entendre une quinzaine de compositeurs présents dans l'exposition « Musique dégénérée » présentée en 1938 à Düsseldorf. On peut ainsi entendre des compositions tombées dans l'oubli comme celle de Gideon Klein, Hans Eisler ou Paul Dessau. Tous ont vu leur œuvre censurée par le Troisième Reich à cause de leur modernité, de leur engagement politique ou de leur origine juive. Au programme, du jazz, du cabaret, de la musique moderniste ou encore de la musique baroque. À noter qu'un album de ses compositions vient de sortir chez Octave Records.
Et pour finir, Marie, la 7e édition de la Nuit du Cirque débute ce soir.
Oui, créée en 2019, cette grande manifestation dédiée aux arts du cirque se déroule jusqu'à dimanche partout en France, mais aussi à l'étranger. Sont ainsi proposés, le temps d'un long week-end, plus de 400 spectacles qui explorent les différentes formes du cirque. À Besançon, par exemple, le spectacle Vilain Chien de la compagnie La Générale Posthume proposera aux spectateurs du cirque dit indigne, tandis qu'à Niort, Circo Crépuscule, un atelier de cirque en nocturne, est ouvert à tous à partir de 10 ans. Nous pourrons pourront enfin découvrir en avant-première le spectacle de Martin Palis, Stéphane Kinsman et David Gauchard, qui s'appelle « Commencer à exister » et ce sera en Nouvelle-Aquitaine. Et bien sûr, l'ensemble du programme de la Nuit du Cirque est à retrouver sur la page du Point Culture.
Merci Marie, on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités culturelles. Bon week-end en attendant. Il est 13h et vous êtes sur France Culture.